Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Je souhaite que la Providence veille sur la France. Pour son bonheur.
Liberté, égalité, fraternité.
Et pour sa grandeur.
$8,8 milliards, c'est le montant en euros du coût social annuel des drogues illicites en France. Ce montant, résultant des travaux de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, prend en compte le coût des vies perdues, des pertes de production ou de la qualité de vie, mais aussi le montant des dépenses publiques de soins, de prévention et de répression. La politique française en matière de drogue repose sur la loi du 31 décembre 1970. Ce texte considère l'usager simple de stupéfiants à la fois comme un malade et comme un délinquant. Délinquant, puisqu'il incrimine spécifiquement l'usage de drogue et prévoit une peine d'emprisonnement ferme. Malade, puisqu'il prévoit une exemption de poursuite pénale pour les toxicomanes usagers simples qui acceptent de se soumettre à une cure de désintoxication. La répression, qui est au cœur de ce dispositif, est la clé de voûte des politiques menées par la France en matière de drogue. Cependant, cette répression est très coûteuse et ne semble pas très efficace. En effet, 75% du budget de l'État consacré aux drogues sont affectés aux mesures répressives au détriment de la prévention et des actions en faveur de la réduction des risques liés à l'usage des drogues. Or, cette guerre à la drogue n'endigue ni la consommation ni la production de drogue et constitue parfois une atteinte aux droits humains puisqu'elle exacerbe les stigmatisations ainsi que les discriminations sociales et raciales. Pourtant, certaines actions de réduction des risques menées par les associations, à l'instar de l'association AIDE, ont prouvé leur efficacité. L'association de lutte contre le VIH et les hépatites virales a en effet voix au chapitre depuis sa création, puisque les usagers et usagères de drogue sont encore aujourd'hui particulièrement exposés au VIH et à l'hépatite. Une situation aggravée, selon l'association, par le carcan répressif. En plaçant les enjeux sanitaires au centre des politiques publiques en matière de drogue, les autorités pourraient davantage axer leurs efforts sur la prévention et la réduction des risques. En outre, un récent sondage relayé par le Collectif pour une nouvelle politique des drogues, le CNPD, montre que les Français et les Françaises jugent que la répression de l'usage des drogues n'est pas efficace et que les actions de prévention et de réduction des risques menées par l'État sont insuffisantes. 82% des personnes interrogées sont favorables à l'organisation d'un débat sur cette question. Pourquoi est-ce que la France, dont la législation est l'une des plus répressives en Europe, maintient cette position et la renforce? Quels sont les fondements, politiques, économiques et sociaux, qui poussent le législateur à maintenir cette répression systématique alors que la guerre à la drogue est un véritable échec? Que peuvent faire les députés face à cette situation? C'est à ces questions que nous tentons de répondre en interpellant des députés aux abords de l'Assemblée nationale. En seconde partie d'émission, nous aurons le plaisir d'échanger avec Camille Spierre, référente réduction des risques liés à l'usage des produits psychoactifs chez AIDE, et Cédric Ruffier, salarié à AIDE en Charente-Maritime. Pour certains députés, le système actuel est inefficace et mériterait d'être repensé. C'est notamment le cas de la députée LREM du Loiret, Caroline Janvier, pour qui les objectifs de la loi de 1970 n'ont pas été atteints.
50 ans après la grande loi de décembre 1970 qui interdit à la fois la production, la distribution et la consommation de cannabis, il me semble important de s'interroger aujourd'hui sur les effets finalement de cette politique publique puisqu'il semblerait que nous ayons finalement les résultats inverses de ceux recherchés, puisque la France s'illustre par un record dans la consommation de cannabis, et cette consommation continue d'augmenter, avec un cadre parmi les plus répressifs. Donc on peut légitimement s'interroger sur l'efficacité de cette politique publique et aussi regarder ce qui se passe ailleurs. On voit par exemple au Portugal, qui en 2001 a fait le choix de dépénaliser l'ensemble des drogues, pas seulement le cannabis. Pourquoi ? Eh bien parce que à la fin des années 70, le Portugal était gangrené par les trafics, par la consommation notamment d'héroïne, par le problème aussi du sida qui était lié. Et ils ont décidé de changer complètement de braquet sur cette politique et de dire finalement arrêtons de considérer les toxicomanes comme des criminels, mais considérons-les comme des malades, comme des personnes qu'il faut accompagner, qu'il faut soigner, qu'il faut aider finalement à sortir de ce phénomène d'addiction. Et en faisant cela, ils ont donc très clairement distingué la question de l'usage, de la consommation du cannabis, de la question du trafic. C'est-à-dire qu'il existe encore des infractions au Portugal lorsque vous êtes en possession d'une quantité de cannabis qui correspond à plus de 10 jours de consommation. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes un trafiquant, vous êtes évidemment pénalisé. En revanche, quand vous êtes un consommateur, eh bien, on vous oriente vers des commissions, vers des services de soins qui vous aident à réduire votre consommation, à recevoir aussi de l'accompagnement sur la question de l'addiction, à mieux comprendre aussi les effets de la substance que vous consommez. Et finalement, avec cette politique publique, eh bien, les résultats sont là, puisque 20 ans après, on voit que le Portugal a diminué par deux, par exemple, sa consommation d'héroïne. On avait près de 1% des Portugais qui étaient héroïnomanes au moment du vote de cette loi. On a aujourd'hui 50 000 personnes qui sont héroïnomanes. Et s'agissant du cannabis, eh bien, on a trois fois moins de consommateurs de cannabis au Portugal qu'en France. Donc, c'est une approche, moi, que je trouve très intéressante, puisqu'on se place vraiment sur la question de l'efficacité de la politique publique et du soin, plutôt que l'angle de l'idéologie et qui ne permet pas d'avoir des résultats.
Pour le député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, les politiques actuellement en vigueur ont débouché sur un véritable échec.
Plus la répression augmente, plus la consommation et le trafic augmentent. Voilà, c'est ça qu'on peut établir comme caractéristique. Donc, on peut difficilement faire pire en termes de bilan. On a le plus mauvais bilan d'Europe, incontestablement. On est les champions d'Europe, par exemple, de la consommation de cannabis, alors même que des pays l'ont légalisé et sont loin derrière en termes de consommation. Donc, c'est un échec absolument global. C'est un échec en termes de santé, c'est un échec en termes d'économie même, parce que c'est une économie qui est importante, mais qui, on voit bien, pour ceux qui en profitent, échappe, j'allais dire, paradoxalement aussi, à tout impôt, toute taxation. Enfin, c'est de l'argent qui circule, qui est peut-être dans la version la plus noire du capitalisme, où les EPA se payent à coup de règlement de compte et où vraiment on est dans le capitalisme plus sauvage et avec… Là, pour le coup, de l'argent qui est net d'impôts, de taxes, de cotisations, de ce qu'on voudra. C'est aussi une catastrophe d'un point de vue, je l'ai dit tout à l'heure, en termes de violence, de ce que ça provoque, y compris de ce que ça entraîne en termes de trafic d'armes. Donc, à partir de là, il faut réfléchir. Et la réflexion, c'est que toutes les politiques qui ont été mises en place, qui sont terribles parce qu'elles ne varient pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a à un moment donné un ministre de l'Intérieur qui roule des mécaniques et qui explique qu'avec lui, les choses vont changer. Alors, on voit, moi je le vois, M. Darmanin l'a dit haut et clair, il a institué quelque chose qui me semble bizarre, qui est une contravention sur la consommation et on va dire les petits dealers, mais qui me paraît plus être une taxe prise par l'État sur du coup un trafic, parce que c'est pas 125 euros ou 135 euros de pénalité qui va arrêter ce qu'on appelle un four qui rapporte entre 25 000 euros par mois. Enfin, donc chacun constatera que c'est pas C'est pas à la hauteur. Certes, on voit plus de policiers à un moment donné qui viennent de l'extérieur. À certains points, je le vois, il y a des policiers qui viennent régulièrement. Sauf qu'aussitôt qu'ils ont le dos tourné, le trafic reprend ou le trafic se déplace de quelques quartiers ou de quelques tours, puisque en réalité, la consommation, elle, ne cesse de baisser. Donc, c'est un peu la politique de la demande. La consommation ne cessant d'augmenter, non pas de baisser, contrairement à ce que je veux dire, eh bien évidemment, le trafic suit. Voilà. Donc, je résume, la prohibition, ça ne marchait pas aux États-Unis avec l'alcool, ça ne marche pas en France avec la drogue.
Même constat du côté du député Liberté et Territoires des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert, pour qui la politique actuelle est dans une impasse.
Mais je pense que quand vous êtes dans une impasse, et vraiment au fond de l'impasse, hein, il n'y a plus aucune possibilité d'avancer dans l'axe dans lequel on est engagé depuis bientôt 50 ans, il est temps de se repositionner et de se dire on va prendre un autre chemin. Et c'est pas toujours facile pour les politiques de prendre ce risque, plutôt l'envie de continuer à persister dans un modèle en se disant un jour ça va aboutir. Donc non, ça n'aboutira pas un jour et prenons le risque. Qui est relativement mesuré, puisqu'on peut regarder ce qui s'est fait à l'étranger. Prenons le risque d'une légalisation, à commencer par le cannabis, de sous contrôle d'État, pour faire baisser le nombre de consommateurs, pour protéger nos concitoyens.
Pour le député LREM de l'Essonne, Pierre-Alain Raffan, le modèle du tout répressif ne semble pas efficace et il semblerait pertinent de réfléchir à des alternatives.
On sait que dans certains pays, ça n'a pas marché. Ça peut être des pays du nord de l'Europe notamment. Et donc, on pourrait, je pense, et ça n'engage que moi, tenter d'autres modèles qu'une partie répressive. Et c'est pour ça que j'avais déjà signé une proposition de loi il y a 2 ans sur la légalisation notamment du cannabis, qui pouvait permettre déjà de financer la prévention dans un premier temps et aussi de pouvoir réguler la qualité des produits sur ces sujets, parce qu'on peut voir que dans certains quartiers ou autres, hein, parce que c'est pas que dans les quartiers, et ça il faut le répéter, que les produits ne sont pas, en tout cas toujours, de qualité, entre guillemets.
C'est également ce que pense le député gauche démocrate et républicaine du Puy-de-Dôme, André Chassaigne, pour qui il faut impérativement sortir de ce modèle.
C'est un avis complètement personnel que j'ai. Je pense qu'il faut sortir du tout répressif. Et je pense qu'en particulier, pour des questions sanitaires, pour des questions d'accompagnement, pour des questions pédagogiques, éducatives, je pense qu'il faut aller vers une politique publique de prise en compte de ce que représentait la drogue aujourd'hui. Et qu'on sorte du tout répressif. D'ailleurs avec une très grande hypocrisie, où d'un côté on fait du tout répressif, et de l'autre côté on laisse une économie parallèle survivre, se développer, en faisant semblant de s'y opposer. Je ne suis absolument pas dupe de ça. Je pense que c'est un problème qu'il faut prendre dans sa difficulté, qu'il faut prendre à bras-le-corps, vraiment sans diaboliser, en mettant tout sur la table, pour essayer de trouver une porte de sortie avec les associations qui sont en contact, avec les comités de quartier, avec les élus qui sont aussi à proximité, avec des médecins, avec des sociologues. Je crois que c'est ça qu'il faut. Il faut vraiment prendre à bras-le-corps cette question-là.
Pour François-Michel Lambert, l'aspect sanitaire devrait davantage être pris en compte par les pouvoirs publics.
Les conséquences sanitaires, elles sont très importantes et diverses. Il y a d'abord l'individu consommateur. Donc, on va prendre le cannabis, on peut extrapoler à d'autres, mais sur le cannabis, c'est extrêmement visible. Il achète sous le manteau un produit dont il ne sait absolument pas comment il a été produit, quels sont les intrants. Peut-être qu'il a été coupé avec du plastique, avec certains éléments nocifs. Et il va fumer ceci et derrière avoir des conséquences extrêmement graves sur sa santé. Et donc, derrière, ensuite, c'est donc le champ public qui intervient, parce que quand un de nos compatriotes a un problème de santé, quelle que soit l'origine, nous avons une obligation, et c'est normal, humanitaire, de l'aider, de le sortir de là, de le soigner. On voit bien que sur l'ensemble de la question des drogues, on ne doit pas être que sur des interdits, on doit être sur la question de l'accompagnement. Et par exemple, la notion de salle de shoot est extrêmement importante. Ce sont des lieux qui permettent d'accompagner des personnes vers la sortie de certains types de drogues. Être dans un tout répressif et laisser entendre qu'il y a d'un côté ceux qui sont très forts et qui ne consomment pas de drogue et de l'autre des gens faibles qui doivent être punis par la société, c'est-à-dire les consommateurs de drogue, est une aberration qui est indigne du XXIe siècle. Nous devons complètement changer notre approche et la compréhension des individus. Et ça, c'est un élément extrêmement important, et la voie que nous proposons autour du cannabis, de cette légalisation sous monopole d'État, donc non pas pour en faire une filière créatrice de richesses, de business avec des marchés qui et des acteurs qui se concurrencent, mais au contraire pour accompagner les consommateurs et les faire diminuer le nombre de consommateurs, elle peut être inspirante pour d'autres drogues.
Par ailleurs, les députés que nous avons interrogés ont tous insisté sur l'importance des actions de prévention pour réduire la consommation des drogues. Éric Coquerel partage également cet avis et préconise de mettre en place d'importantes campagnes de prévention.
On l'a fait tardivement pour la cigarette, l'alcool, mais il faut évidemment accompagner ça d'une politique pour rappeler la dangerosité, quoi qu'on fasse, même si on améliore la chose, des produits de la toxicologie. Et donc ça passe par des campagnes de massives et quasiment systématiques dans les écoles très tôt. C'est fait à certains moments aujourd'hui par des appels à projets, à hauteur de 120 millions d'euros par an, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas systématique. Ça part de. Souvent, c'est des budgets qui viennent de différents endroits, on ne sait pas trop comment les rassembler pour les associations qui y travaillent, donc c'est quelque chose qui doit être systématisé en termes de prévention.
Pour le député Agir Ensemble du Nord, Paul Christophe, il est fondamental d'investir davantage dans ces actions de prévention.
C'est au sens large, je pense en France, on est déficitaire en matière de prévention, quelles que soient les pathologies, et les addictions en font partie. Donc moi, je vous invite à venir sur mon territoire, on accompagne avec un service d'addictologie, où on travaille certes sur le soin et l'accompagnement pour, entre guillemets, se débarrasser des addictions, mais aussi sur la question de la prévention. Et donc s'il y avait effectivement une réorientation budgétaire à proposer, ce serait bien en direction de la prévention.
Pour Pierre-Alain Raffan, cette question mériterait d'être abordée dans le cadre d'un grand débat national.
Ça, c'est des choses qu'on n'aborde pas dans des grands débats nationaux, mais je pense qu'il faudrait qu'on le fasse et qu'on multiplie, à l'image de la Convention citoyenne sur le climat, qu'on aborde thématique par thématique ce type de sujet, pour avoir la vision justement des 150 citoyens tirés au sort à chaque fois. C'est vraiment intéressant de le faire.
Enfin, pour Caroline Janvier, les choses sont en train de changer au sein de l'opinion publique comme de la classe politique, qui se montre de plus en plus favorable à une évolution de la législation en la matière.
Les choses évoluent, on le voit d'une part du côté de l'opinion publique, un certain nombre de sondages, dont un très récent paru en janvier, montrent que 82% des Français sont favorables à un débat public sur ce sujet, que plus de 70% considèrent que notre politique publique actuelle est inefficace. C'est également confirmé par d'autres sondages qui montrent que près d'un Français sur deux sont favorables, par exemple, à la légalisation. Et on constate aussi une évolution au sein de la classe politique. On a vu, par exemple, trois maires membres du Parti Les Républicains, notamment, par exemple, Arnaud Robinet, qui est maire de Reims, ou le maire aussi de Châteauroux, dire publiquement qu'ils étaient favorables à la légalisation parce qu'ils ont constaté sur le terrain, dans la commune dont ils sont en responsabilité, eh bien, les effets finalement de notre politique publique actuelle. On l'a vu aussi avec un sondage qui montre que plus de la moitié des maires d'Île-de-France, des maires franciliens, sont aussi favorables à la légalisation, quelle que soit leur famille politique. C'est vraiment un débat qui transcende les partisans, et aussi très récemment Rachida Dati, qui était auditionnée par la mission d'information que nous conduisons à l'Assemblée nationale et qui a dit avoir elle aussi évolué sur cette question-là.
Nous allons désormais échanger avec Camille Spire, référente réduction des risques liés à l'usage des produits psychoactifs chez Aide, et Cédric Ruffier, salarié à Aide en Charente-Maritime.
Ok, bah c'est parti. On va commencer avec Camille. Camille, est-ce que tu pourrais te présenter pour ce podcast, s'il te plaît ?
Je suis Camille Spire, élue nationale de Aide et référente sur le sujet consommation de produits psychoactifs, donc le sujet des drogues, à Aide. Et dans ce cadre, j'ai été missionnée auprès de la Commission européenne au Civil Society for Human Drugs, qui est un groupe d'experts, une sorte de think tank, qui conseille et qui est consulté sur les questions de drogue au niveau de la Commission européenne.
Super, ça on va en parler aussi d'ailleurs après pour avoir une perspective effectivement européenne sur cette question qui pourrait peut-être éclairer nos élus. Et Cédric aussi, bonjour Cédric.
Donc bonjour, moi c'est Cédric Ruffier, donc je suis animateur d'action pour l'association Aide. On porte un dispositif médico-social qui s'appelle le CARUD, qui est le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Et donc voilà, on travaille autour de la réduction des risques. Pour faire un petit schéma, la réduction des risques, c'est ce qui pourrait se situer entre la prévention et la répression. C'est, voilà, dans l'idée, c'est très pragmatique.
Ouais, et ça, on va en parler aussi parce que c'est important de sensibiliser nos élus sur cette question de la réduction des risques qui est assez centrale et fondamentale. On va commencer avec une petite question. On voit que le gouvernement a tendance à vraiment vouloir renforcer son côté répressif dans sa politique en fait de lutte contre l'usage des drogues, alors qu'on sait quand même avec le temps et aussi avec les expériences internationales que c'est pas forcément un moyen très efficace. Et on a vu aussi assez récemment que certains parlementaires, notamment sur la mission d'information sur la légalisation du cannabis, et tout bord confondu, hein, on a des parlementaires, que ce soit les Républicains, socialistes, République En Marche, commencent vraiment à se montrer de plus en plus favorables à une légalisation, en tout cas du cannabis dans un premier temps, mais des drogues de manière générale. On a vu aussi récemment que l'opinion publique était assez favorable. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte, le dialogue entre les pouvoirs publics et les acteurs de terrain que vous êtes peut se renforcer pour enfin aboutir à une meilleure prise en compte, notamment de la réduction des risques, dans l'élaboration des politiques publiques ?
On a un contexte qui est plutôt favorable dans le sens où il y a la proposition... projet de loi qui arrive là fin mars sur la légalisation du cannabis. On n'est pas le seul pays à réfléchir sur le sujet. Il y a quand même des pressions qui viennent un peu de toutes parts. On peut pas l'ignorer. En fait, je pense que c'est un sujet qui est aujourd'hui difficilement, on ne peut pas dire tiens bon, on s'en fiche. Il y a une pression là-dessus. On a vu avec le sondage qu'on a effectivement mené en janvier avec le collectif pour une nouvelle politique des drogues. Qu'il y a quand même 66% des Français qui pensent que la pénalisation, c'est pas efficace pour lutter contre la consommation de drogue. On a plusieurs, petites lanternes vertes. Cependant, ça nécessiterait quand même une vraie évaluation de la loi 70 et j'en vois pas qui arrive, en tout cas. Je trouve ça assez préoccupant qu'une loi comme celle-là, qui est quand même une loi fondatrice en termes de politique de lutte contre les drogues, soi-disant, ne soit pas du tout évaluée. En fait. On voit bien que c'est inefficace et c'est pas évalué. Donc, j'ai un petit doute quand même. On a il y a quelques feux verts, mais j'ai un petit doute sur l'effectivité au final de tout ça.
Ouais, en gros, pour toi, il faudrait commencer par l'évaluation de cette loi avant d'arriver avec de nouveaux dispositifs législatifs, en quelque sorte.
Ou alors, en tout cas, il faut reconnaître que la loi est un échec.
Ouais, tout à fait. Cédric, toi, sur le terrain, tu le constates aussi, cette loi est véritablement un échec ?
Alors, c'est un échec. La loi de 70, de toute façon, elle va essentialiser le consommateur de produits, le ou la consommatrice, par ailleurs, en tant que soit délinquant, soit malade. Tout ce qu'il y a au milieu, une personne qui puisse gérer sa consommation de n'importe quel produit, c'est pas envisageable, en fait. Donc, du coup, c'est assez problématique dans le sens où on fait pas cette question pour d'autres produits qui sont légaux. Des produits légaux, on peut les consommer de manière tout à fait gérée, alors que des produits illégaux, il semblerait qu'on ne puisse pas. Donc, c'est très idéologique en plus, parce que la guerre des drogues n'a jamais existé. Enfin, la guerre des drogues n'a jamais fonctionné, pardon. même dans les pays où la peine de mort est, il peut y avoir une peine de mort pour des consommateurs, ça n'empêche pas la consommation de drogue. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? On le voit à chaque arrivée d'élection, il y a ce serpent de mer de la légalisation, de la dépénalisation, de la décriminalisation. Il y a ce serpent de mer qui arrive et chaque fois, on se retrouve face aux mêmes politiques qui vont précariser les consommateurs en les discriminant du simple fait qu'ils soient consommateurs de produits. Donc, c'est très compliqué dans le travail au quotidien, évidemment, puisque ça rajoute de la précarisation, ça rajoute de la difficulté à l'accès aux soins, aux droits. Donc, bon, c'est sur le terrain, on voit les effets d'une loi qui est injuste, en fait, au final.
Oui, et c'est assez intéressant quand tu parles, effectivement. Finalement, c'est une question qui est fondamentalement politique. Moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure des interviews que beaucoup n'y connaissaient absolument rien et que c'est ceux qui connaissaient un tant soit peu quelque chose, hein, c'est-à-dire la majeure partie, par exemple, des députés que j'ai interviewés qui travaillent sur le projet de loi de légalisation du cannabis. Et ces personnes-là qui connaissent un tout petit peu quelque chose par rapport aux autres sont favorables à la légalisation. Donc, c'est quand même un vrai sujet, quoi.
C'est exactement ce qu'on voit aussi au niveau européen, là, le Civil Society for Harm on Drugs, par exemple. On m'avait prévenu que tout le monde ne serait pas forcément d'accord. Voilà, c'est les représentants de la société civile de tous les pays européens. Mais en fait, ceux qui bossent et ceux qui connaissent le sujet, on a tous un peu des positions qui sont extrêmement similaires en termes de réduction des risques, notamment côté vraiment ce que tu disais, Cédric, très pragmatique. En fait. Voilà. L'idée, c'est y a moins un autre, il faut faire quelque chose, que ce soit pour la santé notamment des usagers. Et la loi actuelle, contrairement à ce qu'on dit, ça ne permet pas de réduire les trafics. Hein. Dans les quelques chiffres qu'on a pu récemment voir, il y a eu une hausse de, je ne sais plus, c'est 500%, je crois, en 15-20 ans, des condamnations pour usage, alors que ça a à peine augmenté pour les trafics. Donc, bon, c'est bien que ce n'est pas efficace pour le côté trafic.
Oui, c'est clair. Tu parlais justement, Camille, de ton expérience au niveau européen. Toi qui as des responsabilités au niveau européen pour l'association, comment tu vois les rapports entre la société civile et les pouvoirs publics au niveau français par rapport à ce que tu perçois au niveau européen? Est-ce que tu penses que cette expérience européenne pourrait finalement servir de base de réflexion pour proposer des pistes d'amélioration au gouvernement français et aux autorités françaises dans leur dialogue avec les acteurs de la société civile?
Ce que j'ai pu voir au niveau européen, alors déjà rien qu'au niveau de ce groupe d'experts, et j'ai vraiment apprécié, c'est l'association finalement de ce groupe dans tout le process en fait de tout ce qui est politique des drogues. Moi, je savais même pas qu'il existait une stratégie européenne sur les drogues. Il y a un plan d'action. J'ai appris ça en y arrivant. Et en fait, nous, en tant que société civile, on est associés on fait des papers, on fait des petites notes pour conseiller sur la politique internationale, sur le plan européen, sur des indicateurs. On est associés à l'évaluation. Là, il y avait la fin de la dernière stratégie et du coup, on a été associés. C'était assez intéressant. C'est la première fois que c'était fait. Et donc, je trouve que ça donne vraiment un côté beaucoup plus... plus réel, en fait, proche de la réalité. Il y a des questions très, très basiques, hein, mais ils n'avaient pas pensé à traduire, par exemple, des questionnaires dans différentes langues. Alors forcément, si on veut interviewer les usagers, si c'est tout en anglais, ça ne marche pas. Enfin, il y a des choses très pratiques. Et c'est vrai que, du coup, la société civile remet un peu de lien avec le terrain. Donc ça, c'est ce qui se fait au niveau européen. Le problème, c'est que ce qui se fait au niveau européen n'est pas liant avec les différents pays. Hein. Donc c'est intéressant, mais dans d'autres pays, il y a eu des exemples un peu des cas positifs. Voilà, par exemple, c'est au Portugal. Voilà, ils ont travaillé à la mise en place de l'analyse de produits. Et le projet a été vraiment monté par une structure de la société civile, mais soutenue ensuite au niveau national. Ils se sont rendus compte que c'était plus efficace, effectivement, que quelque chose qui venait d'en haut et qui tombait comme ça. Donc, effectivement, au niveau français, je pense qu'on a encore un peu de marge de manœuvre. On peut être consulté parfois. Évidemment, on va être associé à certaines réunions. Et finalement, il manque peut-être des choses un peu plus structurées. C'est vraiment ça ce que j'ai retenu.
La structure dans laquelle t'es associé pour aide au niveau européen, est-ce qu'il y a quelque chose de similaire ou analogue qui existe en France?
Eh bien, je ne pense pas qu'il existe quelque chose de similaire au niveau français. Voilà, on va être dans des réunions avec pas mal de partenaires comme ça, mais il n'y a pas d'instance. Ça pourrait être vraiment une bonne idée, en fait, je pense.
Ouais, on leur souffle une petite idée comme ça. Non, mais c'est super intéressant de voir comment ça se passe au niveau européen et pourquoi finalement c'est plus pris en compte, en tout cas l'avis de la société civile est plus pris en compte au niveau européen qu'au niveau français.
Et en termes de qualité, vraiment, c'est impressionnant. Enfin, au niveau international, par exemple, toutes les notes qui sont faites sur vraiment ça, enfin, la position européenne, enfin, les positions de la Commission européenne auprès de l'ONU, etc., etc., elle est vraiment, il y a une partie qui est écrite presque par la société civile. Enfin, ils reprennent vraiment ce qui est, il y a une grande qualité de production.
Cédric, je vais aussi te poser une question quant aux missions principales que vous avez autour des usagères et usagers de drogue. D'après toi, parmi toutes ces missions, que tu peux aussi nous décrire, hein, ce serait intéressant, quelles sont celles où le soutien des autorités publiques en fait est le moins important? Et si tu devais suggérer des pistes d'amélioration aux législateurs, lesquelles seraient-elles, s'il te plaît?
Alors, les missions du CARUD sont en nombre de 7, en effet. Donc, bon, c'est accueil, que ce soit accueil collectif ou accueil individuel, suivi individuel également. On est sur un principe de collectif, mais on fait du suivi individuel également. On a du soutien aux usagers sur l'accès aux droits, soutien aux usagers sur l'accès aux soins, au logement, tout ce qu'on appelle la santé globale, c'est-à-dire pas uniquement les déterminants de soins, mais également les déterminants sociaux qui sont autour de la personne. On fait de la mise à disposition de matériel de réduction des risques, ça peut être santé sexuelle avec les préservatifs et autres gels, et puis santé prod, qui soit des seringues à usage unique, des roules tapailles, des pipes à crack. Enfin, pour toute forme d'usage de drogue, il y a du matériel pour éviter à la base les risques de transmission, mais il y a également des conseils qu'on peut mettre en place autour d'éviter aussi d'abîmer ses veines, comment filtrer. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. D'ailleurs, dans ce sens, on fait des séances qu'on appelle Early, accompagnement et éducation au risque lié à l'injection. C'est des séances d'injection accompagnées, en fait. C'est un peu comme les salles de consommation à moindre risque qui existent. Seulement là, on est vraiment sur un principe individuel et on est dans un accompagnement qui peut être un accompagnement communautaire. C'est-à-dire que nous, on travaille aussi avec des injecteurs experts l'idée c'est pas de dire ce que tu fais c'est bien c'est mal, l'idée c'est de dire voyons comment tu fais, comment tu te sens quand tu fais ça, de ton point de vue est-ce qu'il y a des choses à améliorer, tiens moi de mon point de vue j'ai vu ça, tiens ça peut être un risque de transmission de bactéries, des trucs tout bêtes des fois, mais après la personne modifie ou pas sa façon de faire, mais l'idée c'est de pouvoir, le principe de l'empowerment c'est de pouvoir faire en sorte que la personne ait les connaissances et qu'après, elle fasse son choix, un choix éclairé. Donc, ça, c'est... Elle peut venir également consommer dans le cadre d'une séance à Early uniquement pour avoir un lieu de consommation sécure, puisqu'on a un certain nombre de personnes qui sont... Alors, peut-être que La Rochelle, c'est particulier, je ne sais pas partout ailleurs, mais on a une file active de nombreux usagers de drogue qui sont à la rue. Et donc, forcément, s'injecter dans une tente ou s'injecter dans un coin de rue, c'est pas sécure. Question bactéries, question tout ce qu'on veut, c'est pas sécure. Et en plus, il y a une forme de discrimination à ce qu'on appellera un mésusage. En fait, c'est une façon d'utiliser, de consommer des produits qui n'est pas vu par l'opinion publique comme étant viable, en tout cas. Donc on travaille là-dessus, on travaille sur l'accompagnement aux soins, aux droits, sur la distribution de matériel, et puis après on fait de la médiation sociale aussi auprès des partenaires, auprès des institutions, auprès des voisins des fois aussi. Enfin, essayer de faire comprendre aux gens que les choses sont plus complexes qu'elles ne paraissent. On fait de l'aller-vers, donc on va à l'extérieur, on fait des maraudes, on travaille beaucoup, enfin, on a des partenaires comme le SAMU Social qui peuvent nous donner des informations aussi. Quand nous-mêmes, on ne va pas à l'extérieur, on a aussi du partenariat de danse qui nous permet de, à la fois d'orienter, mais à la fois aussi d'avoir des, d'orienter vers nous. Et puis, on participe au dispositif de veille, en particulier par le dispositif Train de Synthèse, qui est un dispositif d'analyse de produits. Alors, c'est de l'analyse de produits. Celui-ci, c'est quand il y a un effet indésirable, un effet non recherché. Et donc, ça permet de faire rentrer ça dans une grande base de données qui nous permet de connaître à la fois, nous, on a un retour sur la qualité du produit, et à la fois, d'un point de vue national, voire européen, on a un retour sur les produits qui tournent et les produits de coupe qui peuvent tourner. Donc voilà, dans l'idée, enfin je fais très, très global, hein, mais dans l'idée, le travail du CARUT se dessine autour de tout ça. On fait un petit peu, nous, à La Rochelle aussi, de formation auprès des professionnels de soins, que ce soit les urgences, que ce soit des addictos des fois, ou des travailleurs sociaux. Enfin voilà, pour sensibiliser et dédramatiser la chose, en fait, parce que encore une fois, on part du principe que consommer des produits illégaux, c'est de fait problématique.
Oui, bien sûr.
J'ai coupé du truc, Cédric, ouais, sur le côté efficacité des actions. Enfin, du CARUT, par exemple, tu parlais de l'early, l'accompagnement à l'injection. Effectivement, ça, dans les faits, ça a fait baisser, enfin, quand on est dans les statistiques, de 40% les dommages veineux. C'est vraiment efficace, très, très concrètement. Et cette idée de ne pas considérer les usagers de drogue comme des enfants, on ne devrait pas parler pendant le Covid là, de l'infantilisation de tout le monde, mais de la même manière, en fait, on considère les usagers de drogue comme des malades délinquants, des gens qui ne peuvent pas prendre des décisions bonnes pour eux-mêmes, bah, c'est complètement faux. Enfin, voilà, on a bien vu avec le VIH, hein, qui à la base, c'est vraiment comme ça qu'on a démarré nous, le travail sur l'usage de drogue. Il y a maintenant moins de 2% des personnes contaminées au VIH qui sont des usagers de drogue. Donc, les échanges de seringues, les usagers, ils ont vraiment utilisé ce programme. Ça marche, ouais. Marche. Enfin, ça.
Et pour en revenir à ta question à laquelle je n'ai pas répondu, les missions les plus dans lesquelles c'est le plus compliqué, c'est l'accès aux droits, l'accès aux soins. Parce que donc du coup nous on a des gens précaires, mais ils sont précaires. En fait, faut savoir que la vie dans la rue, c'est tout sauf simple. On peut ne pas avoir été consommateur avant de rentrer dans la rue. On peut avoir été consommateur ou autre. Mais moi, alors je suis pas sociologue. J'ai posé la question à pas mal d'usagers que je croise au CARUD. J'aurais posé la question, est-ce que vous pensez qu'on peut vivre dans la rue, dormir dans la rue, sans utiliser des prods? Parce que moi, je m'étais fait une projection, je me suis dit, tiens, je dors sur un bout de trottoir. Comment je fais pour dormir sur un bout de trottoir? Prods légaux ou illégaux, hein. Ils m'ont dit, c'est possible, j'en connais. Mais majoritairement, la plupart consomment des produits. Et sont polyconsommateurs, c'est-à-dire qu'ils prennent ce qui tourne. Le problème, c'est que quand on est polyconsommateur à la rue, avec le délit de sale gueule qui va avec, on se fait contrôler plus souvent. Et le problème, c'est que si on se fait contrôler plus souvent, soit on se fait amender plus souvent, soit on finit au poste plus souvent et au bout d'un certain temps, on finit en prison. Prison dans laquelle, de manière générale, il n'y a pas de consommation de drogue, évidemment. Donc, la capacité à fournir du matériel de réduction des risques est extrêmement limitée dans les prisons. C'est très compliqué, en dehors des préservatifs qui commencent à arriver. Et prison qui n'a pas vocation non plus à aider les personnes, en tout cas à l'heure actuelle, je parle, à aider les personnes. Donc, les personnes, quand elles ressortent, elles sont de nouveau à la rue et de nouveau consommatrices pour la plupart du temps. Donc, ça a été une parenthèse de privation de droits sans aucune possibilité autre, à part une injonction de soins. Si jamais ils vont pas en prison, ils ont une injonction de soins, donc ils sont considérés comme des malades. Et donc du coup, de toute façon, à partir du moment où c'est pas un choix, c'est rare que ça arrive à déclencher quelque chose de manière pérenne chez quelqu'un.
Et c'est vrai que la prison, à t'en parler Cédric, ça c'est partie dans les axes d'amélioration assez primordiaux quand même. Enfin, le déni de droit, le déni de la consommation en prison et la non-application de la réduction des risques, alors que c'est dans la loi et qu'on attend désespérément les décrets. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire aussi au niveau des parlementaires là-dessus. Enfin, c'est pas la loi de 2016. Donc voilà, pour avoir des matériels de réduction des risques en prison, c'est catastrophique. Et là-dessus, en France, on est vraiment très, très, très mauvais par rapport aux autres pays européens.
Ouais. Si vous aviez l'un et l'autre un message à transmettre au pouvoir public ou des messages à transmettre au pouvoir public, lesquels seraient-ils, Camille ?
S'il y avait un message, je dirais la politique de pénalisation qui existe. Aujourd'hui, elle nous empêche de mener une politique de réduction des risques efficace. Vraiment, je pense que on parle d'une sorte de plafond de verre, en fait, de la réduction des risques, que ce soit pour l'analyse de produits, c'est tout un truc, enfin, des expérimentations, les salles de consommation. La naloxone, c'est un produit qui permet d'éviter une overdose d'opiacés. Aujourd'hui, on a des crises d'approvisionnement. Enfin, voilà, il y a plein de petites actions qui sont soit impossibles, soit compliquées. Les traitements de substitution. En France, c'est pas top. Hein. En Suisse, par exemple, ils ont de l'héroïne médicalisée qui permet aussi de faire en sorte que si les personnes ont envie ensuite d'arrêter de la consommation de produits, ça puisse se faire dans les conditions correctes. Enfin, il y a plein de petites actions qu'on voudrait mettre en place et où on est bloqué à cause de cette loi. S'il y a une chose, c'est qu'il faut vraiment en finir avec cette loi 70 qui en plus coûte milliards d'euros. On pourrait faire quelque chose, on pourrait légaliser et puis taxer, on pourrait récupérer des sous et avoir de la qualité. Je pense que c'est important de penser, de voir ça. Peut-être juste un dernier message, ne pas penser la drogue comme juste le sujet. C'est pas juste le produit, en fait. Le produit n'est pas... Alors, effectivement, le produit peut aggraver les problèmes, etc., mais il y a tout un contexte autour. On est en France, le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs, par exemple. C'est pas l'antidépresseur le problème, mais c'est un certain nombre de contexte social. Donc, si on prend la drogue que par le point du produit, on se plante.
Ouais, merci,
Camille. Cédric.
Juste en complément, c'est vrai que on peut aussi voir la sécurité comme la peur du lendemain. Et la peur du lendemain, c'est pour éviter d'avoir peur du lendemain. Des fois, on a besoin de s'évader du quotidien, du présent. Après, on ne consomme pas des produits uniquement pour s'évader du présent. On peut consommer du produit pour le plaisir, comme on peut consommer un bon verre de vin entre amis, comme il peut y avoir également un usage problématique du vin, ce n'est pas la question. L'idée de la drogue, en fait, c'est ce que j'aimerais... Enfin, si je devais essayer de faire comprendre quelque chose aux députés, il y en aurait deux ou trois, mais... Déjà, partir du principe que même dans le cas d'une personne qui est dépendante à ce produit et qui aurait des problématiques relatives à ce produit, il peut y avoir des phénomènes où la seule option n'est pas forcément l'arrêt. On a maintenant des produits de substitution qui permettent de gérer les consommations, d'arriver sur un seuil qui permet d'être dans un seuil de confort, c'est-à-dire où on n'est pas en manque, mais où on n'est pas défoncé. Donc, la réduction des risques, c'est quelque chose qui dit, tu en es là, tu as envie d'arrêter, tu n'as pas envie d'arrêter, tu prends du plaisir, tu ne prends pas du plaisir, on te prend tel que t'es et on va voir où tu veux aller avec les informations qu'on va te donner et au rythme que tu veux. On se projette pas sur les gens. Je veux dire, on n'est pas là à dire avec tout ce qu'on a fait pour lui, mets-toi en échec. Ça, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens créent leur propre chemin. Et on peut l'avoir aussi avec la drogue, cette chose. C'est-à-dire qu'on peut être. C'est pas parce qu'on est consommateur de drogue qu'on est un enfant ou qu'on est problématique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si vous faites. Si vous travaillez sur une légalisation, il y a plusieurs questions à se poser. Et ça, Camille connaît un petit peu plus que moi, mais quelle légalisation on veut mettre en place ? Quelle légalisation serait la plus intéressante dans un travail de santé publique ? C'est-à-dire que, oui, les gens peuvent consommer, oui, les gens peuvent, et à la fois, quel message, quelle légalisation permettrait d'avoir les meilleurs messages, les messages les plus cohérents ? Est-ce qu'on laisse ça au libre marché? Est-ce qu'on laisse ça? Est-ce que l'État doit tout prendre en charge? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un petit peu entre les deux? Mais pour se poser cette question, je dirais travailler avec les communautés, travailler avec les personnes concernées, que ce soit des professionnels de l'addictologie en associatif ou en milieu médical, mais surtout les personnes qui consomment, les personnes peut-être même qui vendent, parce que c'est un travail, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé du travail grâce à ça. C'est un travail illégal, mais c'est un travail pour ceux à qui on a dit bah, « De toute façon, vous, dans votre vie, vous n'aurez rien d'autre que rien. » Donc, on leur a proposé quelque chose. Et donc, comment on fait aussi pour que ces personnes soient impliquées dans le projet qui arrive? C'est-à-dire qu'on ne va pas leur dire « Voilà, on vous enlève ça et vous n'avez rien toujours. » Comment on les implique? En arrêtant de discriminer systématiquement les mêmes personnes. Donc voilà, je pense qu'il faut travailler sur l'intégralité du processus et réfléchir de manière vraiment très globale là-dessus.
On a quand même un problème d'offre, soit enfin, alors, en addicto ou plus aussi, on parle nous aussi beaucoup du chemsex, c'est-à-dire de la consommation de produits dans le cadre sexuel, en ce moment, on a pas mal de situations, notamment depuis le confinement. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'offre. On entend des médecins ou des addicts qui disent help. En fait, ils nous appellent même à l'aide sur il n'y a pas assez de formation. Il y a besoin effectivement aussi peut-être là de l'État là-dessus sur un peu plus de personnes qui permettraient de répondre aux différents besoins, problématiques ou pas d'ailleurs, des usagers de drogue. Je pense quand même pas d'usage problématique, mais si on va voir son médecin, par exemple. Dans le contexte actuel, on n'a pas forcément envie de lui parler de la consommation, parce que comme ce n'est pas légal, on va être jugé, etc., etc. S'il y avait un petit peu de sensibilisation, ça permettrait aussi aux personnes qui ont peut-être envie d'arrêter ou pas, en tout cas qui ont envie d'en parler, de pouvoir le faire et donc de prendre soin de leur santé. En fait.
C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.